Les informations qui circulent quant au climat qui prévaudrait dans les milieux de la recherche agricole au Québec entretiennent une fausse impression dans l'opinion publique, selon le président de l'UPA, Marcel Groslot. Les agriculteurs ne craignent pas les travaux de recherche. Bien au contraire, ils en veulent davantage de façon à faire évoluer leurs pratiques et les rendre toujours moins agressantes pour l'environnement. Par ailleurs, 4 mois après l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec, le président de l'Union des producteurs agricoles déplore que le gouvernement n'ait toujours pas énoncé ses intentions. Marcel Groslot estime urgent un réinvestissement en agriculture. Voici la première partie de l'entretien que j'ai eu avec lui. M. Groslot, contexte d'incertitude, pourrait-on dire, dans le secteur agricole québécois. Incertitude, si on pointe des productions particulières, le lait, le porc, il y a de l'incertitude. Mais de façon globale, comment vous qualifieriez l'atmosphère, l'humeur dans le monde agricole actuellement?
En fait, l'incertitude aussi, je crois qu'elle est due à... On a eu l'élection, donc en période préélectorale, on attendait l'élection, la nomination du nouveau gouvernement. Depuis l'élection, le ministre, le nouveau ministre, a fait ses études, a travaillé à comprendre les différents enjeux dans les différents secteurs, mais il n'y a pas eu d'annonce non plus sur les directions qu'entendait prendre ce nouveau gouvernement-là sur le financement de la financière agricole, sur des enjeux comme... ce que le port est en train de traverser, par exemple. Alors, c'est sûr que peut-être cette période-là a contribué à l'incertitude. Maintenant, plus spécifiquement, dans le lait, on attend les annonces sur les compensations. Je sais que les comités ont terminé leurs travaux. Les résultats ont été remis à Agriculture Canada. Là, on attend une décision du fédéral. Dans le cas du port, on attend la décision de la Régie des marchés agricoles concernant l'établissement des prix du port, puisque c'est ce que la Fédération demande, d'avoir d'autres paramètres pour rétablir le prix du port à la ferme que ceux qu'on utilise actuellement pour avoir un meilleur partage des revenus dans la filière.
Et justement, sur le port, c'est le fait que essentiellement le dollar est mal partagé entre les transformateurs et les producteurs.
C'est ça. L'argent est dans la filière. On sait que les abattoirs font des profits. En fait, les Olimel de ce monde et Ménard de ce monde et les autres dégagent des bons bénéfices pendant cette période, depuis quelques temps déjà, et les producteurs n'en bénéficient pas. Alors, il y a un mauvais partage du dollar dans la filière.
Il faut que ça soit revu et il y a une décision de la régie qui est en instance, là.
C'est ça, imminente, là. On attend tous cette décision-là. Puis les producteurs, naturellement, avant d'investir ou avant de bouger, attendent un peu cette décision-là qui va être, comme je l'expliquais, parce que j'ai eu à intervenir lors du congrès de l'UPA sur la question, déterminante pour l'avenir du secteur. De quelle façon le secteur va se développer? Actuellement, on importe beaucoup de porc de l'Ontario pour compléter les besoins des abattoirs. Ce porc-là pourrait être produit au Québec, générer des retombées économiques intéressantes au Québec, puis des emplois rémunérateurs, là. Donc, on espère que la situation va permettre d'améliorer la production ici au Québec du porc qu'on exporte partout dans le monde.
On parle de 800, peut-être 1 million de porcs supplémentaires qui pourraient être produits au Québec et que les abattoirs pourraient facilement traiter, découper, etc.
Oui, et peut-être même plus. On parle d'un million de porcs, mais ces porcs-là, au-delà du fait qu'ils vont être abattus, mis en marché chez nous, vont être alimentés à partir de nos meuneries, vont faire travailler nos vétérinaires, vont faire travailler nos fournisseurs d'intrants à la ferme, amènent une valeur fertilisante aussi qui va être utilisée sur nos sols. Alors, il y a beaucoup de retombées économiques à cette production-là si elle est réalisée sur notre territoire.
Donc, pour l'instant, tout est sur la table de la Régie des marchés agricoles.
Mais aussi, je dirais qu'il y a une partie de la solution pour le secteur qui est entre les mains du MAPAC et de la financière agricole. Les investissements à réaliser pour produire ce million de porcs-là sont importants et le programme d'investissement qui est actuellement en place répond pas aux risques que les producteurs encourent s'ils construisent. Alors, il va falloir, selon moi, le programme d'investissement ou de soutien à l'investissement va devoir être bonifié pour le secteur pour ça.
Et là, ça fait un peu partie de ce que vous n'avez pas encore obtenu du ministre André Lamontagne, c'est-à-dire de réelles orientations, de réelles intentions dans différents domaines, dont celui-là.
Bien, nous, on souhaite vraiment un réinvestissement en agriculture. En 2008-2009, le budget du MAPAC était de 1,1 milliard, un peu supérieur à 1,1 milliard. L'an dernier, le budget du MAPAC était à 877 millions de dollars. Donc, il y a eu un désinvestissement de l'État en agriculture. Et si on veut être dans la course au niveau local, au niveau canadien, au niveau international, il faut absolument que le MAPAC, le ministère de l'Agriculture et le gouvernement du Québec accompagnent le secteur et soient présents. Il y a eu un retrait du MAPAC et du gouvernement dans les dernières années et il faut corriger ça.
Ça donne bien, semble-t-il, qu'il y a de très importants surplus au gouvernement du Québec, des surplus un peu inattendus, semble-t-il.
Oui, puis d'ailleurs, ce matin, je prenais peut-être même davantage que les 3 ou 4 milliards qu'on a annoncés récemment. Alors, il y a la marge de manœuvre pour réinvestir en agriculture, puis aussi réinvestir en agro-environnement. Nous, lors de la campagne, on demandait des réinvestissements en agro-environnement de 40 à 50 millions supplémentaires à ce qui se fait actuellement. On sait que les attentes sociétales sont élevé au niveau environnemental et il faut absolument investir. Et on a proposé au gouvernement du Québec un plan vert agricole et je crois que c'est ce que la population souhaite également, qu'on ait une agriculture profitable et qui respecte l'environnement, remplacer les pesticides quand c'est possible, en utiliser le moins possible, rétribuer les biens et services écologiques que rendent les producteurs, donc vraiment prendre le virage vert au niveau agricole.
Un autre domaine de production où il y a des problèmes, pas dans toutes les régions nécessairement, mais dans plusieurs régions périphériques, l'Est du Québec surtout, on a manqué de foin cette année, on doit acheter du foin, mais le prix du foin a explosé.
Il a doublé. La rareté crée la pression sur les prix. Et la qualité, souvent, n'est pas là nécessairement. Ceux qui achètent du foin actuellement se plaignent aussi qu'il y a des problèmes de qualité parce qu'il n'y en a pas de foin à vendre. Là. Alors, il y a des producteurs qui ont eu des décisions difficiles à prendre, réduire la taille de leur troupeau. Ça affecte aussi, je parlais récemment à quelqu'un qui élève des chevaux. On parle moins souvent de ces producteurs-là qui occupent aussi le territoire agricole, là. Mais c'est difficile pour ces gens-là aussi qui sont souvent des acheteurs de foin. Alors, dans le mouton, dans la chèvre, dans les, par exemple, les gibiers, dans le cerf et autres, c'est des périodes difficiles dans ces régions-là. Là. Mais à travers le Québec, parce qu'il y a une rareté maintenant à travers le Québec due à la demande de ces régions-là.
Vous parliez en particulier des chevaux, mais c'est le cas d'autres espèces également. Les chevaux ne mangent, c'est pas du caprice, mais c'est comme ça, c'est pour leur santé, ne mangent que du très bon foin.
Oui, sinon, et du mil, habituellement, peu de légumineuses, pas de luzerne, là, c'est vraiment du mil. Et je parlais justement à une dame là, qui a des chevaux, puis qui cherchait du foin de façon désespérée, puis qu'elle n'en trouvait pas. Alors elle aussi, là, elle dit, si j'en trouve pas, j'aurai des décisions à prendre, parce que là, puis c'est aussi une question d'être capable de maintenir son élevage. Alors, ça touche ces gens-là également, mais c'est sûr, les producteurs de lait, les producteurs de bovins ont eu à prendre des décisions, puis certains ont réduit la taille de leur troupeau, puis certains s'endettent actuellement, puis handicapent le développement de leur entreprise parce qu'ils sont obligés d'acheter du foin à des très hauts, à fort prix. Puis naturellement, les assurances récoltes sont intervenues pour ceux qui étaient assurés, mais ça couvre jamais 100 % des pertes qu'occasionne une sécheresse comme celle qu'on a connue.
Actuellement, le coût de remplacement du foin manquant n'est pas couvert.
En fait, il y a eu un ajustement pour tenir compte de la hausse des prix, mais cet ajustement-là ne représente pas les coûts du marché actuellement. Là. Ça, c'est certain.
On parlait tantôt d'agro-environnement. Je vais joindre les deux sujets, gouvernance versus agro-environnement. Partons du cas de l'agronome Louis Robert, qui aurait subi des pressions et qui, par les gestes qu'il a posés par la suite pour dénoncer ces pressions, s'est vu congédié, remercié du ministère de l'Agriculture. Quelle est la position de l'UPA, justement, face au cas spécifique de M. Robert?
En fait, nous, on n'a pas commenté le volet congédiement, là, parce qu'on n'a qu'une partie des informations et ça serait d'interpréter la situation. La relation de travail, était sans doute particulière, donc c'est difficile pour nous de la commenter. Pour ce qui est de l'accès à l'information, parce que fondamentalement, c'est là que l'enjeu se trouve, nous, à l'UPA, puis moi, personnellement, j'ai toujours favorisé la diffusion de l'information et souhaiter que les producteurs puissent, à partir de cette information-là, faire leur choix sur leurs entreprises. Alors, l'information qui avait été dissimulée ou qui n'a pas été rendue publique, moi, je ne la connais pas. On n'a pas toute l'information encore. Le protecteur du citoyen va peut-être faire la lumière là-dessus. On sera à même de juger de la situation. Mais c'est sûr que nous, on favorise que l'information soit diffusée. et que les producteurs puissent prendre les meilleures décisions possibles avec le plus et la meilleure information possible. Alors, voilà, c'est, je trouve ça malheureux ce qui arrive, là, parce que c'est des personnes qui sont impliquées là-dedans. C'est certainement très difficile, mais en même temps que c'est un peu spécial ce qui arrive, là, je trouve. Mais on n'a pas commenté le congédiement lui-même, là, mais sur le principe de la diffusion de l'information, on est 100% derrière ce principe-là.
Et il y a un autre principe aussi qui veut que de la recherche dans des domaines comme l'agro-environnement, justement, il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y en ait davantage.
La recherche en général, il faut qu'il y en ait plus. Dans le plan vert qu'on propose, on veut augmenter les budgets en recherche. Lorsqu'on compare le Canada par rapport aux pays de l'OCDE, et les sommes investies en recherche au niveau agroalimentaire, on est dans la queue du peloton des pays de l'OCDE, et le Québec et le Canada, là. Donc, c'est sûr qu'il faut investir davantage. Puis, vous savez, les solutions miracles, là, elles ne tombent pas comme ça du ciel, là. Si on veut remplacer les pesticides, si on veut avoir des plantes plus résistantes à certains ravageurs, c'est par la recherche qu'on va y arriver. Ça ne tombe pas du ciel, ça. Et actuellement, on ne finance pas suffisamment la recherche par rapport aux enjeux auxquels les producteurs font face.
Parce que dans l'opinion publique, encore pour beaucoup, les gens considèrent que les agriculteurs sont des utilisateurs de recettes. Ils ont des recettes qui souvent leur sont vendues par les mêmes personnes qui les conseillent et ça se limite à ça. Mais déjà, on peut nuancer tout ça. C'est pas ça, mais il faut que ça soit encore moins ça.
En fait, même ceux qui ont des recettes, si on peut parler de recettes, ces recettes-là doivent être ajustées à chaque année, selon la température aussi. Une année où c'est humide, on n'aura pas les mêmes contraintes au niveau mauvaises herbes ou au niveau insectes qu'une année où c'est sec. Alors, il n'existe pas de recettes parce que nous, on est dépendant de la météo et des conditions météorologiques. Les producteurs ne vendent pas. Moi, je dis, là, les producteurs, on n'est pas des vendeurs de pesticides. Donc, nous, on n'a pas d'intérêt à ce qu'ils s'en vendent beaucoup. On est ceux qui en achètent, puis on a intérêt à en acheter le moins possible. Et je peux vous assurer, puis je rassure tout le monde, lorsque c'est possible de ne pas faire une application, les plus heureux, ce sont les producteurs agricoles. Parce qu'ils sauvent de l'argent. Puis, ils améliorent peut-être même la qualité de leurs produits, là. Alors, c'est sûr que nous, on est favorable à en utiliser le moins possible. Dans certaines productions, en production biologique, ça fonctionne bien. Puis, la recherche évolue. Puis, il y a de plus en plus de producteurs qui vont vers la production biologique. Mais c'est pas possible dans tous les cas encore. Alors, il faut continuer, comme je le disais, puis je le répète, investir en recherche, puis offrir aux producteurs des alternatives à l'usage des pesticides.
Ici Lionel Levac. Dans mon prochain blog, la deuxième partie de l'entrevue que m'accordait Marcel Groslot, j'aborderai entre autres la question de gouvernance des organismes reliés au monde agricole et de la présence des agriculteurs en leur sein. Aussi, il sera question des échanges entre le ministre André Lamontagne et l'Union paysanne. Au revoir.